dans le code de la défense, etc., s'agissant de l'encadrement de l'usage des armes de force intermédiaire dans le maintien de l'ordre, avec un objectif constant, c'est tout à la fois d'assurer le droit de manifester et de préserver l'ordre public et l'intégrité des manifestants d'une part, des forces de sécurité d'autre part. Il y a une doctrine d'emploi des armes de force intermédiaires qui permet d'apporter une réponse graduée et proportionnée aux violences qui sont subies ou à la gravité de la menace, tout en assurant un principe à chaque fois, et je me répète, mais c'est important, de bon usage de la violence, à savoir d'un usage de la force qui est légitime et qui dit légitimité, dit proportionnalité et nécessité. Une fois que nous avons dit ça par rapport à vos questions précises, il y a des évolutions récentes qui permettent, nous semble-t-il, de circonscrire encore davantage les risques de blessures liés à certaines armes de force intermédiaires. J'en veux pour preuve le schéma national du maintien de l'ordre qui a été déjà largement évoqué, publié en décembre 2021. L'objectif de ce schéma national du maintien de l'ordre est notamment la recherche de solutions moins vulnérables pour les armes de force intermédiaires. Il y a un objectif évident, vous l'avez souligné, de nécessaire formation, une formation adaptée pour toutes les forces de sécurité intérieure qui doivent impérativement être formées de manière régulière, être habilitées pour chacune des armes de force intermédiaire. Et il y a des volumes spécifiques et des habilitations particulières pour chaque arme de force intermédiaire. C'est absolument pas une habilitation qui serait générale et sur une durée indéterminée. S'agissant du lanceur de balles de défense, le schéma national du maintien de l'ordre prévoit un meilleur usage en ce que il y a un principe désormais d'un contrôle et sous l'ordre d'un superviseur. S'agissant de la grenade à main de désencerclement, le SNMO prévoit son remplacement par un modèle moins vulnérant, la grenade à éclat non létaux. Pour tenter de répondre à votre question sur des personnes qui se présentent dans les services de police ou de gendarmerie et qui se verraient éconduites, il y a, que ce soit du côté de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, la mise en place par les inspections de visites inopinées dans les services de police et de gendarmerie, des visites inopinées qui permettent aux commissaires ou aux gendarmes qui y procèdent de procéder à une forme de testing, de se faire passer pour un plaignant et de voir la réaction du policier ou du gendarme qu'il y a en face. Et nous publions de manière très transparente cette évaluation de l'accueil dans les services de commissariat ou de gendarmerie. Dans une même démarche de transparence, que ce soit côté gendarmerie nationale ou police nationale, nous nous efforçons de comptabiliser le nombre d'usages d'armes. S'agissant de la police nationale, c'est un logiciel qui est piloté par l'inspection générale de la police nationale, le traitement du suivi de l'usage des armes, que ce soit les armes à feu, les armes de force intermédiaire, et avec l'obligation pour les policiers de remplir ce traitement de suivi de l'usage des armes. Et de manière croisée, un autre applicatif que nous gérons, qui est celui du suivi des personnes blessées ou décédées à l'occasion d'une mission de police. Et ce, également de manière transparente. Dans le rapport annuel de l'inspection générale de la police nationale, ces données croisées, me semble-t-il, vous permettront de trouver réponse à nombreuses de vos questions.
Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation française, je vous remercie pour votre contribution essentielle.